Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Le repas se continue. Après le repas, la mère est allée dans sa chambre se reposer pour sortir. Ensuite, Gilbert va dans la sienne pour se reposer et réfléchir à sa nuit. Il va s'allonger sur son lit. Il se dit qu'il aimerait bien connaître la personne qu'il a hébergée et soignée cette nuit. Décide d'aller le voir pour le remercier. Il se lève. Et sort de sa chambre. Une fois dehors, il se dirige vers le quartier du Marais. À mi-chemin, il a pris un taxi. Qu'il a arrêté devant la maison. Le portail n'a pas de sonnette. Il pousse la porte. La porte est ouverte. Il entre. Il est entré. Longe le passage, monte les escaliers, arrive au couloir. Y a quelqu'un? Pas de réponse. Pas de bruit. Frappe à une porte du couloir. Rien. Se souvient où était sa chambre. Il va frapper à la porte. Entre. La pièce est vide, pas un meuble. J'ai dû me tromper. Il sort de la chambre. Va frapper aux autres portes. Les ouvre. Les pièces sont vides aussi. Il se dit qu'il a dû se tromper d'étage et va à l'étage plus haut. Là, il ouvre les portes, elles sont vides, les pièces sont vides, sales, inhabitées depuis longtemps. Il ne comprend pas, il est bien couché dans une chambre meublée. Alors, non, elles sont toutes vides. Il décide de sortir de l'immeuble. Il regarde la rue, l'immeuble, décide de se renseigner, d'entrer dans un magasin pour se renseigner. Il voit un magasin d'antiquités. Il décide d'y rentrer. Se trouve une vieille femme en robe noire, cheveux blancs avec une broche sur sa robe. « Monsieur, vous désirez ?»« Bonjour, madame. J'aimerais un renseignement. Qui habite en face de chez vous ?»«
Pourquoi, monsieur ?»«
Comme ça, parce que ça me rappelle un endroit que je crois reconnaître. Et je crois connaître la personne qui habitait. » Elle lui dit «
Cela m'étonnerait, monsieur. Vous êtes bien jeune, et cela fait au moins 30 ans que cette maison est inhabitée. Le propriétaire est mort, et sa famille qui a hérité n'y habite pas.
Donc personne n'y habite ?
Non, Absolument personne. Mais je crois qu'avec les grands travaux qui vont se faire à Paris, malheureusement, l'immeuble risque d'être détruit et que l'on construira à la place une résidence, ce genre de choses à grand standing. Bien, je vous remercie, madame. Sorti du magasin, une fois dehors, il se dit. C'était peut-être un squatteur qui m'a hébergé. Oui, mais les meubles, il a dû les emprunter. Ce semblait être des meubles de prix pourtant. Sans nul doute des meubles laissés par l'ancien propriétaire. Mais tout de même, drôle d'histoire. Gilbert marche et se dit, drôle d'histoire. C'était peut-être un voleur, celui qui m'a soigné. Alors pourquoi il l'a fait? Et pourquoi m'avoir mené dans cet immeuble, cette chambre, et soigné? En tout cas, avec moi, il s'est bien comporté. Il marche dans les rues, au hasard. Passant dans une rue lugubre, une porte d'un vieil immeuble s'est ouverte et en sort une jeune fille habillée d'un manteau beige, porte à la main une valise en cuir marron. Il s'arrête net. Gilbert est ébloui par la jeune fille qui est grande, mince, blonde. Le regard se croise. Gilbert est ébloui par elle. Elle lui dit « Bonjour ». Un taxi passe, elle lui fait signe de s'arrêter. Elle le regarde, il se regarde, puis elle s'engouffre dans le taxi. Gilbert le regarde s'éloigner. Cette apparition lui a fait l'effet, un effet extraordinaire. Il ne pense qu'à son visage. Il quitte la rue, tout doucement, et décide de rentrer chez lui. Durant toute la journée, il rêve constamment à la scène où il a vu la jeune fille. Il reste allongé sur son lit, ne pouvant rien faire d'autre. La nuit, il reste éveillé à penser à elle. Petit déjeuner, sa mère lui demande « Tu vas bien ?»« Oui, pourquoi ?»« Tu as l'air tout chose. »« Tu ferais bien, c'est de faire un peu de sport. » Fin de matinée, n'en pouvant plus, il retourne vers l'immeuble où il l'a vu. Où il l'a vu sortir. Il reste devant son allée sans bouger, attendant un miracle. Une femme, grosse, en manteau gris, cheveux châtains, lui demande « Vous cherchez quelque chose ?»«
Oui. J'aimerais savoir si dans cet immeuble, il y a une jeune fille qui y habite. »«
Ça fait 25 ans que j'habite le quartier et j'ai jamais entendu dire qu'une jeune fille habitait ici. »« Je le saurais, je suis la boulangère. »« Non, pas de jeune fille. »
Et une personne qui aurait une jeune fille dans sa famille?
Non plus. Je connais tout le monde. Allez.
Elle s'éloigne. Lui aussi. Lui aussi en fait autant. Car il a peur qu'on se méfie de lui. Il est triste et se dit qu'il ne la verra sûrement plus. Il a peut-être une chance sur 1 milliard pour la revoir. Il ne doit plus y penser. Il doit s'habituer à ne plus y penser. Je vais rencontrer des milliers de personnes que je ne reverrai plus. Et je ne reverrai plus cette apparition non plus. C'est la vie. Pourtant, elle est belle, celle-là. Elle m'a bien regardée. Elle aussi doit être triste en se disant qu'elle ne le reverra plus. Elle est peut-être partie pour aller vivre en Australie ou plus loin. Le monde est si vaste, si vaste. Décidément, je ne fais que de faire des rencontres bizarres ces derniers temps. Mais, durant toute la journée, ne peut s'empêcher de penser à la jeune fille. Le soir, durant le dîner, avec ses parents, son père lui dit
« Tu m'as l'air un peu pâle ces derniers temps. Tu devrais faire un peu de sport. »
« Non, ça va, père. »
« C'est tes études qui te tracassent ?»«
Non, ça peut aller. »
« De toute façon, ne te fais pas de soucis. Diplôme ou pas diplôme, tu travailles avec moi. »
« Merci, père, mais j'ai pas envie de te succéder. »
Et que veux-tu faire?
Tu le sais bien.
Tu es mon seul fils. Tu peux pas me laisser tomber comme ça. Tu es mon seul héritier.
Gilbert est tout rouge. Il a honte de faire de la peine à son père. Sa mère leur dit.
Il est encore jeune. Vous pourrez parler de tout ça dans quelques années,
lorsqu'il comprendra mieux. Son père lui dit.
Tu as raison. Tiens. Si tu veux, nous pourrions jouer au tennis demain après-midi.
Oui, je veux bien, père, la mère dit.
Je viendrai, moi aussi, je viendrai vous voir jouer avec mon amie Brigitte.
Le lendemain, le père et le fils jouent au tennis. La mère les regarde jouer avec son amie Brigitte, une grande femme blonde dans les 40 ans. Elle est restée très jeune et mince. La mère lui dit en les regardant jouer.
Je peux me faire, moi, avoir un si grand et beau garçon et dire qu'il n'y a pas si longtemps. Il était si petit.
Son ami lui dit,
tu te souviens? que tu avais failli le perdre. Tu as eu un accouchement très dur. Un vrai miracle qu'il soit né, celui-là.
Tu en as plus ?
Oui, je me souviens. Qu'est-ce que j'ai pu souffrir ? Heureusement que l'on m'a endormi.
Tu en as plus ?
Le père lance le plan reconstruction-rénovation des villes. On démolit tout, sauf ce qui a un caractère historique et pas trop dégradé. La mairie convoque les propriétaires d'une rue. Elle leur dit que leur immeuble va être démoli et que la maison Franblanc va les indemniser. Chaque propriétaire est convoqué individuellement à la mairie. Un propriétaire du boulevard de Lyon a reçu sa convocation à la mairie. La convocation pour la mairie. C'est un homme grand, gros, chaud, habillé d'un costume gris. Il entre à la mairie avec sa lettre. Va à l'accueil. Là, il y a une jeune fille maigre à lunettes qui lui demande
« Vous désirez ?»
J'ai reçu cette convocation.
Il lui montre le papier. Elle le lit. Elle lui dit
« Ah oui, 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 des expulsions. C'est au premier étage, porte droite, attribution logement. »
Sûr que c'est attribution logement, c'est expulsion.
Elle lui dit, c'est la même chose, monsieur.
Il monte à l'étage. Et au premier étage, il y a un couloir sombre, vieux. Il lit sur les portes, aide sociale. Assistante sociale, salle des mariages, papier officiel d'état civil, et enfin, l'attribution au logement. Frappe à la porte. Entrez ! Il entre.
Bureau minuscule, plein de piles de papier à terre, petite fenêtre, radiateur à roulettes électriques, une armoire métallique qui ne peut se fermer tellement elle a de dossiers. Un petit homme, tout maigre, est assis à une table, plein de piles de papier. Il y a un ordinateur sur son bureau.
Vous désirez, monsieur, faire une demande de logement ? Je n'en ai pas. Vous voyez, toutes ces piles, c'est toutes des demandes. Mais si vous tenez vraiment à faire une demande, je ne peux vous en empêcher.
Il tend un papier.
Je ne peux vous empêcher. Vous remplissez tout ça et vous me le ramenez.
Le propriétaire lui dit,
mais je ne suis pas venu vous demander une demande de logement. Je suis convoqué par la mairie pour un... parce que mon immeuble va être démoli.
Le petit homme lui dit « C'est bien ce que j'ai compris. Du moment que votre immeuble va être démoli, il vous faut un autre logement. C'est logique, non ?»«
Peut-être bien, monsieur. Mais moi, je suis propriétaire de cet immeuble, j'habite moi-même une charmante maison à la campagne. J'ai ce qu'il me faut.
Alors, vous êtes venu faire quoi ici ?
Je me le demande. Je crois que j'étais venu pour que vous me parliez de mon indemnité.
Ah, je vois. Vous venez parce que vous voulez qu'on vous indemnise, que la mairie vous indemnise par une somme forfaitaire qui est évaluée suivant le quartier où vous êtes. Et comme le vôtre sera démoli, elle sera très basse parce que c'est un quartier dévalué à cause de la démolition.
Est-ce à dire ?
Vous avez 6 mois de loyer par appartement et c'est tout.
Ce n'est pas assez.
Si vous refusez, vous n'avez rien du tout. C'est à prendre ou à laisser. C'est la loi. Pour le bien de la communauté, vous êtes obligé, c'est d'accepter, avec ou sans indemnité, la démolition de votre immeuble.
Et moi alors ?
Vous, votre bien est réquisitionné.
Je suis propriétaire.
Le sol est à la France, monsieur.
Quand il s'agissait de payer les impôts, vous disiez que c'était privé.
Là, ce n'est pas la même chose, le même service. Pour eux, c'est privé. Pour nous, non. Il faudra vous arranger avec eux pour ne plus payer d'impôts et leur dire que vous n'êtes plus propriétaire, parce qu'autrement, vous allez continuer à en payer. Eux, ils font leur travail. Moi, je fais le mien.
Or, que dois-je faire ?
Je vais vous donner un fichier, comme quoi vous offrez à la ville votre immeuble et le terrain, pour le prix qu'elle aura choisi. Après, je mettrai tout ça dans un ordinateur lorsqu'il sera réparé et que j'aurai fini mon stage pour apprendre à m'en servir. Il lui donne des papiers.
Et si je refuse ?
Vous serez expulsé. Et en tant que propriétaire, vous n'aurez pas le droit aux logements sociaux. Il n'y a que les locataires qui en ont le droit.
Moi ? Mais moi, puisque je n'aurai plus de logement, je ne serai plus propriétaire.
Vous ne pourrez pas avoir de logements sociaux parce que vous n'aurez pas de fiche de loyer sur 2 mois.
Je m'en ferai une.
Alors, vous pouvez faire votre demande pour une HLM.
Mais vous faites... Que faites-vous de tous ces gens expulsés ?
Nous allons construire des logements sociaux en bois, en dehors de la ville.
Au revoir, monsieur.
un vieil immeuble de la rue Saint-Jacques, rue populaire du 4e arrondissement de Paris. L'immeuble a 4 étages, pas très grand, sans style, façade grise. Aux fenêtres, il y a des pots de fleurs ou des étendages.
On entre par l'allée, par une petite porte en bois étroit. La porte ferme mal.
Le hall de l'allée est un couloir. C'est sombre, petit. Les murs sont gris. À gauche, il y a les boîtes aux lettres dépareillées. À droite, un petit escalier en pierre usée avec sa petite rampe de fer peinte en vert. Ces escaliers vont aux étages. Sous les escaliers, il y a une porte en fer avec des barreaux sur le haut peint en noir qui donne à des escaliers en pierre usés aussi, pleins de détritus qui mènent aux caves. Ça sent l'humidité. D'ailleurs, toute l'allée sent l'humidité, les poubelles et la pisse. En face de la porte de la cave se trouvent deux petites poubelles grises à roulettes. Les couvercles sont ouverts et les saletés débordent. Derrière les poubelles, une porte en bois qui donne à une petite cour avec un petit arbre rabot gris. Chaque palier aux étages, il y a deux portes qui se font face, portes en bois. Entre les deux portes, une lampe électrique. À moitié des escaliers se trouve la fenêtre qui donne sur la cour. Ces fenêtres n'ont jamais été nettoyées. Au dernier étage, les escaliers continuent pour aller jusqu'au grenier. Chaque locataire a son grenier. Ces locataires sont là depuis fort longtemps. Il y en a même qui ont eu la succession de leurs parents. Ils y ont leur habitude, connaissent bien le quartier. Ils sont à Paris mais mènent une petite vie de province. Le loyer n'est pas trop cher et il n'y a pratiquement pas de charges. Un homme vient faire le ménage une fois par jour et c'est tout. Tout le monde se connaît et s'aide. Les personnes âgées, les malades peuvent rester chez eux parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur leurs voisins pour les aider. C'est mieux pour une personne âgée de vieillir dans un environnement qu'elle connaît depuis longtemps. Il faut éviter de les déloger car ça les déstabilise. Ils font tous les yeux fermés parce qu'ils connaissent par cœur où se trouvent les choses et savent les distances d'un point à un autre.
Les appartements de cet immeuble sont de 2 pièces plus alcôve. Petit hall d'entrée. À droite, la cuisine. À gauche, la chambre. En face, le séjour alcôve, les WC et la salle d'eau, il faut passer par la cuisine. Ça a été construit après et mis dans un renfoncement. Monsieur Jean Rivière se réveille comme chaque matinée à 7h30. Il a 70 ans. Il se lève. Il est en slip et t-shirt gris. Sa chambre est meublée 1930. C'est des meubles de ses grands-parents. Il a toujours vécu comme ça. Après s'être levé, il met ses pantoufles pour aller dans la cuisine, se ranger et prendre son petit déjeuner. La cuisine est sombre, l'évier est en pierre, sous son égouttoir se trouvent des tas de vaisselle, car M. Jean lave la vaisselle, mais ne l'essuie pas, ni le arrange, il la laisse sur l'égouttoir. Il y a une cuisinière à gaz, un réfrigérateur avec un poste de radio, un buffet 1950 avec une niche pleine de papiers de lettres. Sur la porte du buffet, des tas de cartes postales et des photographies. Le buffet est un petit hôtel de souvenirs. Une petite table de bois recouverte d'une toile cirée se trouve en vrac, du pain, une boîte à sucre, un paquet de gâteaux ouverts, et des boîtes de comprimés pour la tension. Contre la table se trouve une cloison en bois, puis une fenêtre sans rideau qui donne dans la cour et une porte qui donne au cabinet de toilette. Monsieur Jean va se raser. Petit lavabo où se trouve dessus un gant de toilette, un savon pour se raser, un rasoir métallique, mécanique, au-dessus du lavabo une glace et un rayonnage où se trouve du shampoing, eau de cologne, des médicaments. À droite du lavabo, il y a le bac à douche et en face la cuvette du WC qui sent fort, car M. Jean ne récure pas. Il croit au miracle des produits que l'on met dans l'eau et qui lave tout seul. Le WC a une vieille chasse d'eau en hauteur en fonte avec sa chaîne. À droite du WC, une petite fenêtre. Monsieur Jean se rase, prend sa douche une fois par semaine, mais se rase tous les jours, change de vêtements de corps aussi qu'une fois par semaine après sa douche. Il lave lui-même ses vêtements de corps dans le lavabo. Comme il ne frotte pas assez et ne rince pas suffisamment, son linge blanc jaunit vite, n'est-ce pas, mesdames? Pour ce qui est du gros linge, il le donne à dégraisser une fois par mois, sauf pour les chemises qu'il lave lui-même aussi. Ce qui fait que M. Jean ne fait pas très net sur lui-même, mais il est habitué à vivre comme ça et les gens se sont habitués à lui comme ça. Sortait avec un costume neuf, tout le monde le remarquerait et ce serait gênant pour lui et pour les autres qui n'oseraient plus lui parler. Pour ce qui est des maladies dues à l'hygiène, il n'est pas plus mal que les autres,
parce que les microbes se sont habitués à lui et lui à eux. Ils cohabitent bien ensemble, chacun ignore l'autre.
Monsieur Jean a fini de se raser. Et je n'ai pas encore décrit comment il était, pardonnez-moi. C'est un homme de taille moyenne, mince, cheveux gris, visage rond. Il fait moins de 70 ans.
Une fois à la cuisine, il va préparer son petit déjeuner. Il prend une casserole sur l'évier. Va la remplir d'eau.
Et va la faire chauffer sur la cuisinière.
Chauffe-eau au gaz, mais il préfère c'est faire chauffer son eau. Il met dans son bol du sucre en poudre. Une fois que l'eau est bouillie, il la verse dans son bol.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.